laloidedieu.org. Appendice C. Les viandes interdites pour le chrétien. Tous les êtres vivants n'ont pas été créés pour être des aliments. Cette vérité devient évidente lorsque nous examinons les débuts de l'humanité dans le jardin d'Éden. Adam, le premier homme, s'est vu confier la tâche d'entretenir un jardin. Quel type de jardin? Le texte hébreu original ne le précise pas, mais il existe des preuves irréfutables qu'il s'agissait d'un jardin fruitier. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'est, et le Seigneur Dieu fit pousser du sol tous les arbres agréables à voir et bons à manger. Genèse 2:15. Nous lisons également que le rôle d'Adam consistait à nommer les animaux et à en prendre soin, mais nulle part l'Écriture ne suggère qu'ils étaient également bons à manger, comme les arbres. Il ne s'agit pas de dire que manger de la viande est interdit par Dieu. Si c'était le cas, il y aurait des instructions explicites à cet effet dans toute l'Écriture. Cependant, cela nous indique que la consommation de chair animale ne faisait pas partie du régime alimentaire de l'humanité depuis le début. Les dispositions initiales prises par Dieu au cours de la première phase de l'existence de l'homme semblent être entièrement basées sur les plantes, en mettant l'accent sur les fruits et d'autres formes de végétation. La distinction entre animaux purs et impurs. Si Dieu a fini par autoriser l'homme à tuer et à manger des animaux, des distinctions claires ont été établies entre les animaux propres à la consommation et ceux qui ne l'étaient pas. Cette distinction apparaît pour la première fois dans les instructions données à Noé avant le déluge. Prends avec toi 7 paires de chaque espèce d'animaux purs, un mâle et sa femelle, et une paire de chaque espèce d'animaux impurs, un mâle et sa femelle. Genèse 7:2. Le fait que Dieu n'ait pas expliqué à Noé comment distinguer les animaux purs des animaux impurs suggère qu'une telle connaissance était déjà ancrée dans l'humanité, peut-être dès le début de la création. Cette reconnaissance des animaux purs et impurs reflète un ordre et un dessein divin plus large, où certaines créatures ont été mises à part pour des rôles ou des objectifs spécifiques dans le cadre naturel et spirituel. La signification première des animaux purs. Sur la base de ce qui s'est passé jusqu'à présent dans le récit de la Genèse, nous pouvons supposer que jusqu'au déluge, la distinction entre les animaux purs et impurs n'était liée qu'à leur acceptabilité en tant que sacrifice. L'offrande par Abel du premier-né de son troupeau met en évidence ce principe. Dans le texte hébreu, l'expression « premier-né de son troupeau » utilise le mot « troupeau » tson, qui désigne généralement les animaux domestiques tels que les moutons et les chèvres. Il est donc très probable qu'Abel ait offert un agneau ou un jeune bouc de son troupeau. Genèse 4, 3-5. Les sacrifices d'animaux purs de Noé. De même, lorsque Noé est sorti de l'arche, il a construit un autel et a sacrifié des holocaustes au Seigneur en utilisant des animaux purs qui étaient spécifiquement mentionnés dans les instructions de Dieu avant le déluge. Genèse 8:20, 7:2. L'accent mis très tôt sur les animaux purs pour les sacrifices pose les bases pour comprendre leur rôle unique dans le culte et la pureté de l'Alliance. Les mots hébreux utilisés pour décrire ces catégories, Tahor et Tamei, ne sont pas arbitraires. Elles sont profondément liées au concept de sainteté et de séparation pour le Seigneur. Tamei, signification impur. Usage, fait référence à l'impureté rituelle, morale ou physique. Souvent associé à des animaux, des objets ou des actions interdits à la consommation ou au culte. Exemple néanmoins, vous ne mangerez pas ceci, ils sont impurs, tamei, pour vous. Lévitique 11:4, Tahor. Signification, propre, pur. Usage, se dit d'animaux, d'objets ou de personnes propres à la consommation, au culte ou aux activités rituelles. Exemple, tu distingueras ce qui est saint de ce qui est commun, ce qui est impur de ce qui est pur. Lévitique, Didi. Ces termes constituent le fondement des lois alimentaires de Dieu, qui sont ensuite détaillés dans Lévitique, chapitre 11, et Deutéronome, chapitre 14. Ces chapitres énumèrent explicitement les animaux considérés comme purs, autorisés pour la nourriture, et impurs, interdits à la consommation, garantissant ainsi que le peuple de Dieu reste distinct et saint. Les avertissements de Dieu contre la consommation de viande impure. Tout au long du Tanakh, Ancien Testament, Dieu a maintes fois réprimandé son peuple pour avoir violé ses lois alimentaires. Plusieurs passages condamnent spécifiquement la consommation d'animaux impurs, soulignant que cette pratique était considérée comme une rébellion contre les commandements de Dieu. Un peuple qui me provoque continuellement en face, qui mange la chair des porcs et dont les marmites contiennent un bouillon de viande impure. Isaïe 65, 3 et 4. Ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins, en suivant celui qui est du nombre de ceux qui mangent la chair des porcs, des rats et d'autres choses impures, ceux-là finiront avec celui qu'ils suivent, déclare le Seigneur. Isaïe 66, 17. Ces reproches soulignent que le fait de manger de la viande impure n'était pas simplement une question de régime alimentaire, mais un échec moral et spirituel. L'acte de consommer de tels aliments était lié à une défiance à l'égard des instructions de Dieu. En se livrant à des pratiques explicitement interdites, le peuple démontrait son mépris pour la sainteté et l'obéissance. Jésus et la viande impure. Avec la venue de Jésus, la montée du christianisme et les écrits du Nouveau Testament, beaucoup ont commencé à se demander si Dieu ne se soucie plus de l'obéissance à ses lois, y compris à ses règles sur les aliments impurs. En réalité, la quasi-totalité du monde chrétien mange ce qu'elle veut. Le fait est qu'il n'y a aucune prophétie dans l'Ancien Testament qui dise que le Messie annulerait la loi sur les viandes impures ou toute autre loi de son Père, comme certains le prétendent. Jésus a clairement obéi aux ordonnances du Père en tout, y compris sur ce point. Si Jésus avait mangé du porc, tout comme nous savons qu'il a mangé du poisson, Luc 24, 41 à 43, et de l'agneau, Matthieu 26, 17 à 30, nous aurions alors un enseignement clair par l'exemple, mais nous savons que ce n'était pas le cas. Rien n'indique que Jésus et ses disciples aient enfreint les instructions données par Dieu par l'intermédiaire des prophètes. Argument réfuté. Faux argument. Jésus a déclaré que tous les aliments étaient purs. La vérité. Marc 7, 1 à 23 est souvent cité comme preuve que Jésus a aboli les lois alimentaires concernant la viande impure. Cependant, un examen attentif du texte révèle que cette interprétation n'est pas fondée. Le verset couramment cité à tort dit « car l'aliment n'entre pas dans le cœur, mais dans l'estomac, et il en est rejeté comme un déchet ». C'est ainsi qu'il déclara pur tous les aliments. Marc 7, 19. Le contexte. Il ne s'agit pas de viande propre ou impure. Tout d'abord, le contexte de ce passage n'a rien à voir avec la viande pure ou impure telle qu'elle est décrite dans le Lévitique. 11. Il s'agit plutôt d'un débat entre Jésus et les pharisiens au sujet d'une tradition juive sans rapport avec les lois alimentaires. Les pharisiens et les scribes ont remarqué que les disciples de Jésus ne procédaient pas au lavage cérémoniel des mains avant le repas, appelé en hébreu « netilat yadayim ». Ce rituel, qui consiste à se laver les mains avec une bénédiction, est une pratique traditionnelle observée par la communauté juive jusqu'à aujourd'hui, en particulier dans les cercles orthodoxes. La préoccupation des pharisiens ne concernait pas les lois alimentaires de Dieu, mais l'adhésion à cette tradition créée par l'homme. Ils considèrent que le fait que les disciples n'accomplissent pas le rituel constitue une violation de leurs coutumes et l'assimilent à de l'impureté. La réponse de Jésus. Le cœur compte davantage. Jésus consacre une grande partie de Marc 7 à enseigner que ce qui souille vraiment une personne, ce ne sont pas les pratiques ou les traditions extérieures, mais l'état du cœur. Il insiste sur le fait que l'impureté spirituelle vient de l'intérieur, des pensées et des actions pécheresses, plutôt que de l'inobservation des rituels cérémoniels. Lorsque Jésus explique que la nourriture ne souille pas une personne parce qu'elle pénètre dans le système digestif et non dans le cœur, il ne s'adresse pas aux lois alimentaires, mais plutôt à la tradition cérémonielle du lavage des mains. Il met l'accent sur la pureté intérieure plutôt que sur les rituels extérieurs. Un examen plus approfondi de Marc 7, 19. Marc 7, 19 est souvent mal compris en raison d'une note parenthétique inexistante que les éditeurs bibliques ont insérée dans le texte, déclarant « par là, il déclara pur tous les aliments ». Dans le texte grec, la phrase dit seulement « Oti ukeis poreuetai, otu eisten kardian, aleisten koilian, k kai eiston aphedron ekporewetai katarizon panta bromata, ce qui se traduit littéralement par « parce qu'il n'entre pas de lui dans le cœur, mais dans le ventre, et que c'est dans les latrines qu'il sort, nettoyant tous les aliments. » Lire. « Dans les latrines sortent, nettoyant toutes les nourritures. » Et traduire par « par là, il déclara pur tous les aliments » est une tentative flagrante de manipuler le texte pour l'adapter à un préjugé commun contre la loi de Dieu dans les séminaires et parmi les éditeurs de la Bible. Ce qui est plus logique, c'est que la phrase entière est une description par Jésus, dans le langage quotidien de l'époque, du processus de l'alimentation. Le système digestif absorbe la nourriture, en extrait les nutriments et les composants bénéfiques dont le corps a besoin, la partie propre, puis rejette le reste sous forme de déchets. L'expression « nettoyer ou purifier tous les aliments » fait probablement référence à ce processus naturel de séparation des nutriments utiles de ceux qui seront rejetés. Conclusion sur ce faux argument. Dans Marc 7, 1 à 23, il n'est pas question d'abolir les lois alimentaires de Dieu, mais de rejeter les traditions humaines qui font passer les rituels extérieurs avant les questions de cœur. Jésus a enseigné que la véritable souillure vient de l'intérieur, et non pas du fait de ne pas observer le lavage des mains cérémonielles. L'affirmation selon laquelle Jésus a déclaré tous les aliments propres est une mauvaise interprétation du texte, enracinée dans des préjugés contre les lois éternelles de Dieu. En lisant attentivement le contexte et la langue originale, il apparaît clairement que Jésus a maintenu les enseignements de la Torah et n'a pas rejeté les lois alimentaires données par Dieu. Faux argument. Dans une vision, Dieu a dit à l'apôtre Pierre que nous pouvons désormais manger la chair de n'importe quel animal. La vérité. De nombreuses personnes citent la vision de Pierre dans Actes 10 comme preuve que Dieu a aboli les lois alimentaires concernant les animaux impurs. Cependant, un examen plus approfondi du contexte et de l'objectif de la vision révèle qu'elle n'avait rien à voir avec l'abolition des lois sur les viandes pures et impures. La vision avait plutôt pour but d'enseigner à Pierre à accepter les païens dans le peuple de Dieu, et non de modifier les instructions alimentaires données par Dieu. Dans Actes 10, Pierre a la vision d'un drap descendant du ciel, contenant toutes sortes d'animaux purs et impurs, accompagnés de l'ordre de tuer et manger. La réponse immédiate de Pierre est claire : certainement pas, Seigneur. Je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé. Actes 10, 14. Cette réaction est significative pour plusieurs raisons. L'obéissance de Pierre aux lois alimentaires. Cette vision survient après l'ascension de Jésus et l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Si Jésus avait aboli les lois alimentaires pendant son ministère, Pierre, un proche disciple de Jésus, en aurait été conscient et ne s'y serait pas opposé aussi fermement. Le fait que Pierre ait refusé de manger des animaux impurs prouve qu'il observait toujours les lois alimentaires et qu'il n'avait pas compris qu'elles avaient été abolies. Le véritable message de la vision. La vision est répétée 3 fois, soulignant son importance, mais sa véritable signification est clarifiée quelques versets plus loin, lorsque Pierre visite la maison de Corneille, un païen. Pierre lui-même explique la signification de la vision. « Dieu m'a montré que je ne dois traiter personne d'impur ou de souillé. » Actes 10, 28. La vision ne concernait pas du tout la nourriture, mais il s'agissait d'un message symbolique. Dieu a utilisé l'image des animaux purs et impurs pour enseigner à Pierre que les barrières entre juifs et gentils étaient en train de disparaître et que les gentils pouvaient désormais être acceptés dans la communauté de l'Alliance de Dieu. Incohérence logique de l'argument de l'abolition de la loi alimentaire. Affirmer que la vision de Pierre a aboli les lois alimentaires, c'est ignorer plusieurs points essentiels. 1. La résistance initiale de Pierre. Si les lois alimentaires avaient déjà été abolies, l'objection de Pierre n'aurait aucun sens. Ses paroles reflètent son adhésion continue à ces lois, même après des années passées à la suite de Jésus. 2. Aucune preuve scripturale de l'abolition. Nulle part dans Actes, dit, le texte n'indique explicitement que les lois alimentaires ont été abolies. L'accent est mis entièrement sur l'inclusion des païens, et non sur une redéfinition des aliments purs et impurs. 3. Le symbolisme de la vision. L'objectif de la vision devient évident dans son application. lorsque Pierre se rend compte que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'il accepte des gens de toutes les nations qui le craignent et font ce qui est juste. Actes 10, 34 à 35, il est clair que la vision avait pour but de faire tomber les préjugés et non les règles diététiques. 4. Contradiction dans l'interprétation. Si la vision concernait l'abolition des lois alimentaires, elle serait en contradiction avec le contexte plus large des Actes, où les croyants juifs, y compris Pierre, ont continué à observer les instructions de la Torah. En outre, la vision perdrait son pouvoir symbolique si elle était interprétée littéralement, car elle ne concernerait alors que les pratiques alimentaires et non la question plus importante de l'inclusion des gentils. Conclusion sur ce faux argument. La vision de Pierre dans Actes 10 ne concernait pas la nourriture, mais les personnes. Dieu a utilisé l'imagerie des animaux purs et impurs pour transmettre une vérité spirituelle plus profonde. L'Évangile est pour toutes les nations et les gentils ne doivent plus être considérés comme impurs ou exclus du peuple de Dieu. Interpréter cette vision comme une révocation des lois alimentaires, c'est méconnaître à la fois le contexte et l'objectif du passage. Les instructions alimentaires données par Dieu dans Lévitique 11 restent inchangées et n'ont jamais été au centre de cette vision. Les actions et les explications de Pierre le confirment. Le véritable message de la vision consiste à faire tomber les barrières entre les gens et non à modifier les lois éternelles de Dieu. Faux argument. Le Conseil de Jérusalem a décidé que les païens pouvaient manger n'importe quoi, pourvu que ce ne soit pas étranglé et qu'il n'y ait pas de sang. La vérité. Le Concile de Jérusalem, Actes 15, est souvent interprété de manière erronée, comme suggérant que les païens ont reçu la permission de ne pas tenir compte de la plupart des commandements de Dieu et de ne suivre que quatre exigences fondamentales. Cependant, un examen plus approfondi révèle que ce concile ne visait pas à abolir les lois de Dieu pour les païens, mais à faciliter leur participation initiale aux communautés juives messianiques. Sur quoi portait le concile de Jérusalem? La principale question abordée lors du concile était de savoir si les païens devaient s'engager à respecter l'intégralité de la Torah, y compris la circoncision, avant d'être autorisés à entendre l'Évangile et à participer aux réunions des premières congrégations messianiques. Pendant des siècles, la tradition juive a considéré que les gentils devaient devenir pleinement observants de la Torah, notamment en adoptant des pratiques telles que la circoncision, en observant le sabbat, les lois alimentaires et d'autres commandements, avant qu'un juif ne puisse librement interagir avec eux. Voir Matthieu 10, 5 à 6, Jean 4, 9, Actes 10, 28. La décision du concile a marqué un changement. En reconnaissant que les païens pouvaient commencer leur cheminement dans la foi sans suivre immédiatement toutes ces lois. Quatre conditions initiales pour l'harmonie. Le concile a conclu que les païens pouvaient assister aux réunions de la congrégation comme ils le faisaient, à condition d'éviter les pratiques suivantes. Actes 15, 20, 1. Nourriture polluée par les idoles. Éviter de consommer de la nourriture sacrifiée aux idoles, car l'idolâtrie était profondément offensante pour les croyants juifs. 2. Immoralité sexuelle, s'abstenir des péchés sexuels qui étaient courants dans les pratiques païennes. 3. Viande d'animaux étranglés, éviter de manger des animaux qui ont été tués de manière inappropriée, car ils conservent du sang, ce qui est interdit par les lois alimentaires de Dieu. 4. Le sang, éviter de consommer du sang, une pratique interdite par la Torah. Lévitique 17, 10 à 12. Ces exigences ne constituaient pas un résumé de toutes les lois que les païens devaient suivre. Elles servaient plutôt de point de départ pour assurer la paix et l'unité entre les croyants juifs et païens dans les congrégations mixtes. Ce que cette décision ne signifiait pas. Il est absurde de prétendre que ces quatre exigences étaient les seules lois auxquelles les païens devaient obéir pour plaire à Dieu et recevoir le salut. Les païens étaient-ils libres de violer les 10 commandements? Pouvaient-ils adorer d'autres dieux, utiliser le nom de Dieu en vain, voler ou tuer? Bien sûr que non. Une telle conclusion contredirait tout ce que les Écritures enseignent sur les attentes de Dieu en matière de justice. Un point de départ, pas un point d'arrivée. Le concile a répondu au besoin immédiat de permettre aux gentils de participer au rassemblement juif messianique. Il était supposé qu'ils progresseraient dans la connaissance et l'obéissance au fil du temps. Acte 15:21 apporte des éclaircissements. La décision du conseil est clarifiée dans Acte 15:21, car la loi de Moïse, la Torah, a été prêchée dans toutes les villes depuis les temps les plus reculés, et elle est lue dans les synagogues à chaque sabbat. Ce verset montre que les païens continueraient à apprendre les lois de Dieu en fréquentant la synagogue et en écoutant la Torah. Le concile n'a pas aboli les commandements de Dieu, mais a établi une approche pratique pour que les païens puissent commencer leur cheminement de foi sans les accabler. Jésus lui-même a souligné l'importance des commandements de Dieu. Par exemple, dans Matthieu 19:17, et Luc 11:28, ainsi que dans l'ensemble du Sermon sur la montagne, Matthieu 5:7, Jésus a affirmé la nécessité de suivre les lois de Dieu, telles que ne pas commettre de meurtre, d'adultère, d'aimer son prochain et bien d'autres encore. Ces principes étaient fondamentaux et n'auraient pas été écartés par les apôtres. Conclusion sur ce faux argument. Le Concile de Jérusalem n'a pas déclaré que les païens pouvaient manger n'importe quoi ou ignorer les commandements de Dieu. Il a abordé une question spécifique. Comment les gentils pouvaient commencer à participer aux assemblées messianiques sans adopter immédiatement tous les aspects de la Torah? Les quatre conditions étaient des mesures pratiques visant à promouvoir l'harmonie dans les communautés mixtes juifs gentils. L'attente était claire. Les païens allaient progresser dans leur compréhension des lois de Dieu au fil du temps, grâce à l'enseignement de la Torah qui était lue dans les synagogues chaque sabbat. Suggérer le contraire, c'est dénaturer l'objectif du concile et ignorer les enseignements plus larges de l'Écriture. Faux argument. L'apôtre Paul a enseigné que le Christ a annulé la nécessité d'obéir aux lois de Dieu pour le salut. La vérité. De nombreux responsables chrétiens, sinon la plupart, enseignent à tort que l'apôtre Paul s'est opposé à la loi de Dieu et a demandé aux païens convertis de ne pas tenir compte de ses commandements. Certains suggèrent même que l'obéissance aux lois de Dieu pourrait compromettre le salut. Cette interprétation a entraîné une grande confusion théologique. Les érudits qui ne partagent pas ce point de vue se sont efforcés de répondre aux controverses entourant les écrits de Paul, en tentant de démontrer que ces enseignements ont été mal compris ou sortis de leur contexte en ce qui concerne la loi et le salut. Cependant, notre ministère a une position différente. Pourquoi expliquer Paul n'est pas la bonne approche? Nous pensons qu'il est inutile et même offensant pour le Seigneur de se donner beaucoup de mal pour expliquer la position de Paul sur la loi. Ce faisant, on élève Paul, un être humain, à un statut égal ou supérieur à celui des prophètes de Dieu et même à celui de Jésus lui-même. L'approche théologique appropriée consiste plutôt à examiner si les Écritures antérieures à Paul ont prédit ou approuvé l'idée que quelqu'un viendrait après Jésus pour enseigner un message annulant les lois de Dieu. Si une prophétie aussi importante existait, nous aurions des raisons d'accepter les enseignements de Paul sur ce sujet comme étant divinement sanctionnés, et il serait logique de faire tout notre possible pour les comprendre et les respecter. L'absence de prophétie concernant Paul. En réalité, les Écritures ne contiennent aucune prophétie concernant Paul ou tout autre personnage apportant un message qui annule les lois de Dieu. Les seuls individus explicitement prophétisés dans l'Ancien Testament et apparaissant dans le Nouveau Testament sont les suivants. 1. Jean le Baptiste. Son rôle de précurseur du Messie a été annoncé et confirmé par Jésus. Par exemple, Isaïe 43, Malachie 4:5-6, Matthieu 11:14. 2. Judas Iscariote. On trouve des références indirectes dans des passages tels que Psaume 41:9 et Psaume 69:25. 3. Joseph d'Arimathie, Isaïe 53:9, fait indirectement allusion à lui en tant que celui qui a assuré l'enterrement de Jésus. En dehors de ces personnes, il n'existe aucune prophétie concernant l'envoi de quelqu'un, et encore moins d'un habitant de Tarse, pour annuler les commandements de Dieu ou enseigner que les païens peuvent être sauvés sans obéir à ses lois éternelles. Ce que Jésus a prophétisé après son ascension. Jésus a fait de nombreuses prophéties sur ce qui se passerait après son ministère terrestre. La destruction du temple, Matthieu 24:2. La persécution de ses disciples, Jean 15-20, Matthieu 10-22. La diffusion du message du royaume à toutes les nations, Matthieu 24-14. Pourtant, il n'y a aucune mention de quelqu'un de Tarse, et encore moins de Paul, ayant reçu l'autorité d'enseigner une doctrine nouvelle ou contraire concernant le salut et l'obéissance. Le véritable test des écrits de Paul. Cela ne signifie pas que nous devions rejeter les écrits de Paul ou ceux de Pierre, Jean ou Jacques. Au contraire, nous devons aborder leurs écrits avec prudence, en nous assurant que toute interprétation s'aligne sur les écritures fondamentales, la loi et les prophètes de l'Ancien Testament et les enseignements de Jésus dans les évangiles. Le problème ne réside pas dans les écrits eux-mêmes, mais dans les interprétations que les théologiens et les responsables d'Église leur ont imposées. Toute interprétation des enseignements de Paul doit être étayée par 1. L'Ancien Testament. La loi de Dieu telle qu'elle a été révélée par ses prophètes. 2. Les quatre évangiles. Les paroles et les actes de Jésus qui a défendu la loi. Si une interprétation ne répond pas à ces critères, elle ne doit pas être acceptée comme vérité. Conclusion sur ce faux argument. L'argument selon lequel Paul aurait enseigné l'annulation des lois de Dieu, y compris les prescriptions alimentaires, n'est pas étayé par les Écritures. Aucune prophétie ne prédit un tel message, et Jésus lui-même a maintenu la loi. Par conséquent, tout enseignement qui prétend le contraire doit être examiné à la lumière de la parole immuable de Dieu. En tant que disciples du Messie, nous sommes appelés à nous aligner sur ce qui a déjà été écrit et révélé par Dieu, et non à nous fier à des interprétations qui contredisent ses commandements éternels. L'enseignement de Jésus par la parole et l'exemple. Le véritable disciple du Christ modèle toute sa vie sur lui. Il a clairement indiqué que si nous l'aimons, nous serons obéissants au Père et au Fils. Il ne s'agit pas d'une exigence pour les pusillanimes, mais pour ceux dont les yeux sont fixés sur le royaume de Dieu et qui sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour obtenir la vie éternelle, même si cela suscite l'opposition de leurs amis, de l'Église et de leur famille. Les commandements concernant les cheveux et la barbe, le tzitzit, la circoncision, le sabbat et les viandes interdites sont ignorés par presque toute la chrétienté, et ceux qui refusent de suivre la foule seront certainement persécutés, comme Jésus nous l'a dit, Matthieu 5-10. L'obéissance à Dieu demande du courage, mais la récompense est l'éternité. Les viandes interdites selon la loi de Dieu. 4 sabots d'animaux différents, certains fendus et d'autres solides, illustre la loi biblique sur les animaux purs et impurs selon Lévitique 11. Les lois alimentaires de Dieu, énoncées dans la Torah, définissent spécifiquement les animaux que son peuple est autorisé à manger et ceux qu'il doit éviter. Ces instructions mettent l'accent sur la sainteté, l'obéissance et la séparation des pratiques qui souillent. Voici une liste détaillée et descriptive des viandes interdites avec des références bibliques. 1. Les animaux terrestres qui ne ruminent pas ou qui ont les sabots fendus. Les animaux sont considérés comme impurs s'ils n'ont pas l'une de ces caractéristiques ou les deux. Exemple d'animaux interdits. Chameau, gamal, rumine mais n'a pas de sabots fendus. Lévitique 11-4. Irax des rochers, chafan, il rumine mais n'a pas les sabots fendus. Lévitique 11-5. Cheval, sus, ne rumine pas et n'a pas de sabots fendus. Cochon, chazir, il a les sabots fendus mais ne rumine pas. Lévitique 11-7. 2. Créature aquatique sans nageoire ni écaille. Seuls les poissons dotés de nageoires et d'écailles sont autorisés. Les créatures qui n'ont ni nageoire ni écailles sont impures. Exemple de créatures interdites. Poisson-chat sans écailles. Mollusques et crustacés. Crevettes, crabes, homards et palourdes. Anguilles. Manque de nageoires et d'écailles. Calmars et pieuvres. Ils n'ont ni nageoire ni écailles. Lévitique 11, 9 à 12. 3. Oiseaux de proie, charognards et autres oiseaux interdits. La loi spécifie certains oiseaux qui ne doivent pas être mangés, généralement ceux associés à des comportements de prédateurs ou de charognards. Exemple d'oiseaux interdits. Aigle, nécher, Lévitique 11, 13. Vautour, da, Lévitique 11, 14. Corbeau, orev, Lévitique 11, 15. Le hibou, l'épervier, le cormoran et autres. Lévitique 11, 16 à 19. 4. Les insectes volants qui marchent à quatre pattes. Les insectes volants sont généralement impurs, sauf s'ils ont des pattes articulées pour sauter. Exemple d'insectes interdits. mouches, moustiques et coléoptères. Les sauterelles et les criquets constituent toutefois des exceptions et sont autorisées. Lévitique 11, 20 à 23. 5. Les animaux qui rampent sur le sol. Toute créature qui se déplace sur le ventre ou qui a plusieurs pattes et qui rampe sur le sol est impure. Exemple de créatures interdites. Serpents, lézards, souris et taupes. Lévitique 11, 29 à 30, 40 et 1 à 42. 6. Animaux morts ou en décomposition. Même s'il s'agit d'animaux propres, il est interdit de manger une carcasse qui est morte d'elle-même ou qui a été déchirée par des prédateurs. Référence. Lévitique 11, 39 à 40. Exode 22, 31. 7. Croisement d'espèces. Bien qu'il ne s'agisse pas directement d'un régime alimentaire, le croisement d'espèces est interdit, ce qui implique des précautions dans les pratiques de production alimentaire. Référence. Lévitique 19, 19. Ces instructions démontrent le désir de Dieu que son peuple soit distinct, l'honorant même dans ses choix alimentaires. En adhérant à ces lois, ses disciples font preuve d'obéissance et de respect pour le caractère sacré de ses commandements. Cette série et beaucoup d'autres études sur la loi de Dieu peuvent être trouvées sur le site lalois-de-dieu.org.